Gilbert Roumont, Jean-Louis Foulquier, c'est Paul M. Salut. Compagnie ce soir depuis le square de Léo Ferré.
Sérieux quand on a 17 ans, un beau soir, foin d'époque et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève et du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres, un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Lui l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs, de la limonade. Mon n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Ferré avec nous un moment qu'on attendait. Hein,
Sylvie,
Sylvie est un petit peu intimidée, Léo, mais je l'ai prévenu que.
Elle a tort.
Oui, ça va passer. Ça va passer.
Qu'il n'y avait pas de problème. Léo Ferré, on est content que tu sois là. C'est plus une exception maintenant que tu participes à une émission parce qu'on ne voit Léo, on voit Léo Ferré partout, à la télévision, chez Drucker, chez Poivre d'Arvor. Ils ont mis le temps, mais maintenant, ça y est.
Oui, parce que je me refusais à aller à la télévision en disant je ne vais pas trafiquer comme ça le commerce. Et je me suis rendu compte que j'ai eu tort, parce que si je suis allé voir Drucker depuis longtemps, je ne le voyais plus, et puis Poivre d'Arvor, c'est que Dacla qui distribue mes disques maintenant s'est mis à son compte parce qu'il a été mis dehors d'une façon honteuse par des gens qui ont acheté RCA, notamment Ariola. On l'a convoqué en Allemagne, on lui a dit ah, non, c'est terminé, monsieur, comme ça. Hein. Alors il m'a proposé de travailler avec lui. Alors il a fallu que je fasse un effort. Et cet effort a été de faire de la publicité d'information parce qu'il faut que les gens sachent qu'il se passe quelque chose. Si on vend je sais pas moi, si je dis toujours que si je réveille Chaplin ou Homer, que je les mets dans une cave chez moi, ils resteront seuls. Mais si je dis que je les ai avec moi, il y a des millions de personnes qui viennent, quoi. Et alors, je me suis dit, il a fallu que je me rende compte le lendemain où Drucker a montré le disque de où il y a mon fils sur la pochette. On a vendu 1000 disques. Le disque de Cosimo, c'est passé inaperçu parce qu'on n'en parlait pas. Et parce que justement, je ne me suis pas produit. J'avais tort. Voilà. Alors il y a des gens qui me disent, alors tu fais la télévision? J'ai dit oui, je fais la télévision. Et alors, ça vous ennuie? Moi non.
Et alors maintenant, t'es rentré au top.
Voilà, je suis rentré, il paraît, oui.
C'est ça. Oui. C'est ravissant.
T'es ouais. Top. Alors est-ce que tu vas suivre l'évolution du top pour savoir si tu gagnes une place?
Alors moi j'écoute le top, mais je ne me suis jamais entreaperçu dans le top.
Oui.
Ou entre-entendu, quoi.
Ça te fait drôle d'être au top?
Ça me fait, bon, je me rends pas compte.
Oui. Non, mais c'est, en tous les cas, c'est la preuve que le disque intéresse les gens, et c'est ça le plus important.
Oui, parce qu'ils savent, ils se disent ça, on va l'acheter parce que ça nous plaît, mais s'ils ne savent pas que ça existe, ils ne peuvent pas en parler, c'est ça, quoi.
Alors, on a vu tout à l'heure, avant que tu arrives ici, au restaurant où on t'attendait, une jeune fille, hein, elle avait tout juste 18-20 ans.
Oui, 20 ans, totalement essoufflée, en transe, qui venait d'apercevoir Léo Ferré dans la rue, et qui était dans un état de stupéfaction et de...
Elle est rentrée, elle est allée vers le patron du restaurant en disant « Je viens de voir Léo Ferré comme je te vois là, dans la rue.
Ah, »
C'est très, très
impressionnant.
Et toi, tu te rends pas compte de ça?
Non, pas du tout, non. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas qu'on me prenne pour... qu'on me satisfie comme ça, quoi. Au fond, on est tous pareils. Moi, je fais ça parce que je sais faire ça, ce que je fais, quoi. C'est évident que j'ai eu de la chance de pouvoir écrire et puis de vivre de ce que j'écris, mais ça c'était pas gagné d'avance. Hein.
Oui, mais d'un autre côté, si on ne vous agresse pas dans la rue, qu'on ne vient pas vous taper sur l'épaule, finalement, c'est une admiration que les gens ont pour eux, comme un petit bouquet. Et
oui, d'accord, je sais bien. Oui, je sais bien. Parfum de l'oubli, le sourire des larmes, l'or de ma gorge en sang quand je crie à l'amour. Les roses de l'enfer, la tristesse des âmes, le songe des damnés sous le pavé des cours. L'univers de Stalin.
mandoline encombrée de guitares. La vertu des putains dans une flûte en sol, le rêve d'un bateau ancré dans une mare, l'étoile du septième ciel à l'entresol. Personne ne pourra jamais te montrer ça. Un sac en plastique, la raison du plus fort dans un cercueil blindé. Le rêve d'une fleur perdue dans l'Atlantique, la terreur de Danton écrite en pointillé. Ce cheval devant la guillotine, le pull de cette tricoteuse à l'abattoir, la couleur de tes yeux au cul de ta voisine n'est pas perdue, de ses amants sur le trottoir. Van Gogh derrière un tournesol, les griffes de l'absurde à ta peau de panthère, les baisers du silence au chant du rossignol. Avec la frime, disant à ses vainqueurs qu'ils peuvent s'en aller, et aussi au pouvoir jaloux et anonyme. Viendra.
comme une rime année, puisqu'on pourra te les montrer, puisqu'on pourra, si tu le veux, te les donner.
T'as pas l'impression que le comportement des gens ont changé à ton égard depuis quelques années? Il y avait un moment, et ça je sais que tu en as souffert, où les gens étaient plutôt agressifs vis-à-vis de Léo Ferré. Oui, j'avais jamais très bien pourquoi.
J'avais compris.
On a raconté des tas d'histoires.
Après 68, oui. Après, juste en 70-71. Ça c'était un appel au meurtre, comme on dit, entre guillemets, qu'avait fait cette espèce de fasciste qui se dit extrême gauche, là. Comment il s'appelle? Jean Edernalier, Lim Galeuil qui pourlèche, tu sais. Et.
Il fait de la publicité pour les caleçons, c'est.
Eh oui, mais là, je sais pas, mais en tout cas, ça avait marché, son appel, hein. Depuis Lille jusqu'à Toulouse. En 7 ou 8 représentations, et je pouvais plus travailler, quoi. C'était pas possible. Les gens rentraient, les types rentraient, ils fonçaient le barrage du contrôle, quoi. Et puis, 30-40 dans une salle de 2000 personnes. Et alors, il gueulait pendant tout le temps, je chantais, et je pouvais rien faire. Et je chantais quand même. Et je me disais, les gens qui sont là, qui sont venus pour moi, il y avait de 1500 ou 2000 personnes, je me disais, comment ça se fait que ces gens-là disent rien, ils n'empêchent pas de qu'est-ce que c'est ces gens-là, quoi. Et un jour, j'ai compris, assez vite, j'ai compris que j'étais encore le spectacle, quoi. C'est ça. C'était terrible, ça. À Bordeaux, je veux pas être trop long dans mes affaires, je suis pas trop long, non?
Non, on a tout notre temps, en plus.
À Bordeaux, un soir, où je chantais dans les cris, dans les gueulantes de ces types-là, je dis, 20 à 30, même s'il y a 2-3 personnes qui gueulent, c'est pas possible, quoi, on peut rien faire. Et j'ai vu au quatrième ou cinquième rang, un mouvement, là, comme ça, 3 chansons à la fin de mon tour, et je suis sorti, en sortant, il y a une femme que je vois arriver, qui sortait de chez le concierge avant que je sorte, parce que à ce moment-là, j'avais un copain qui préparait la voiture, qui la mettait en marche, et je partais tout de suite, avant les gens, quoi. Sinon, j'étais pas agressé, mais j'étais embêté dans la rue, quoi. Et cette femme me dit, ah, Léo, et pourtant, on t'aimait. Alors je dis, j'étais avec Maurice et Fro, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Me dit, t'occupe, je t'expliquerai. Et alors, il m'a mis dans la voiture, cette femme me poursuivait. Et il m'a dit que son mari, qui était à côté d'elle, donc au quatrième ou cinquième rang, avait reçu une bouteille pleine de bière sur la tête. Alors j'étais celui qui avait envoyé la bouteille, quoi. C'est terrible, ça.
Mais que criaient-ils, ces gens, ces 30 ou 40?
Alors, je sais pas ce qu'ils criaient. Léo, arrête, salaud, je sais pas, fasciste probablement, ou communiste, ou je sais pas quoi, enfin.
Il y avait eu ce reportage truqué aussi, au moment où tu faisais le palais des congrès, et où ils avaient montré une Rolls, en laissant entendre que tu venais au palais des congrès dans ta Rolls personnelle.
Ah oui, mais ça, c'était pas au palais des congrès, je crois pas. Et ça, c'était fait par sous l'égide de Martin, de Dimanche Martin. Là. Je sais pas pourquoi il avait fait ça, d'ailleurs. Pour lui, c'était une blague, peut-être.
C'était le petit rapporteur, je crois.
C'est ça, ouais. Alors, j'étais vraiment très, très, très déçu par ça, parce que... Enfin, j'avais une voiture, j'aimais les voitures à ce moment-là, quoi. J'ai toujours jamais eu de chance avec les voitures, mais je payais cher des voitures qui marchaient 3 mois, et puis après, ça s'arrêtait, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai jamais eu de Rolls. Si j'avais une Rolls, ben, j'aurais une Rolls, quoi. Là, bon, c'est en blague, hein. Bon, et alors ouais. Un jour, un type m'a dit, tu gagnes... Un type qui m'a dit, j'étais à Monaco chez un copain qui vendait, qui me faisait des pâtes comme ça avec un petit verre de vin, pas loin du casino alors, il s'appelait Marcel. Et il rentre un type qui s'assoit devant moi, qui met les pieds sur la table comme ça. Il me dit, alors il paraît que tu as des usines. J'ai dit, non, on vous a trompé monsieur, je n'ai pas des usines, j'ai eu une usine. Alors, il n'a rien compris, il me dit, ah! J'ai dit, oui, vous savez où elle est? Il me dit, non, elle est là. Je fais signe de ma tête.
Je vendrai de l'amour, si l'amour est à vendre. Je vendrai des jardins, si ça poussait chez moi. Je vendrais un pendu si je pouvais me pendre. Je vendrais la folie si les fous se vendaient. Je vendrais du whisky comme un chagrin de crin. Je vendrais des canaux qui les assoiffaient. Je vendrais votre lit, madame, qui passait. Je vendrais mon chandail comme ma brebis tricote. Je vendrais le pouvoir si je pouvais le vendre. Je vendrais mes chansons au coq, à Coqueluche. Je vendrais les chasseurs même au mois de septembre. Et je vendrais leurs chiens si mes chiens me le Je vendrais la rapide pour tout ce sac d'avoine. Je vendrais mon cheval s'il mangeait de l'essence. Si je vends mon enfer pour me chauffer l'hiver, j'écouterai le tien sur mon vieux pornographe. Je vendrais la marée à la mer sans courage. Je vendrai la boussole à toi qui perds le nord. Je vendrai la pampa aux plantes carnivores. Et je vendrai le bruit au silence de mort. Je vendrai la passion si tu me la donnais. Je vendrai l'inversion si tu viens à l'envers. Je vendrai le courage aux senteurs ni reproches. Et je vendrai l'enfer pour un demi de bière. Je vendrai l'Amérique aux Indiens de Nanterre. Je vendrai Robespierre à ceux de 68. Je vendrai 68 aux communards, mes frères. Je vendrai la commune si cela se vendait. Je vendrai les patrons aux ciseaux de ma mère. Je vendrai du corton au dernier pour la route. Je vendrai l'essentiel aux feuilles de la mémoire. Je vendrai les poignets aux frontières du doute. Je vendrai la justice aux anards de service. Je vendrai les ordures au parfum de madame. Je vendrai le sourire aux larmes qui se cherchent. Et je vendrai l'automne à celle qui se trouve. Je vendrai des psychiatres à la zéométrie. Je vendrai du psychique à la matière inerte. Je vendrai des rivières au delta de la nuit. Je vendrai de l'absinthe à l'espérance verte. À l'espérance verte. Je vendrai les baleines au corset de naguère. Je vendrai les outrages aux hommes à genoux. Je vendrai les aurores aux aubes qui s'oublient. je vendrai des armes à la mélancolie. Je vendrai un instant au temps du relatif. Je vendrai quelques volts aux galaxies éteintes. Je vendrai nulle part à des prohibitifs. Je vendrai la raison à des prix hors d'atteinte. La raison à des prix hors d'atteinte. Il ne reste que moi qui ne suis pas à vendre. Alors tu es passé et je me suis donné à toi. Pour rien, à toi.
Peut-être parce que tu dénonçais des choses, tu disais tout haut ce que plein pense tout bas, qu'il y a eu cet acharnement sur... Tu dérangeais, quoi.
Oui, mais alors quelqu'un qui parle, qui dit ce qu'il pense, il dérange. Admettons, alors je dérange, qu'est-ce que tu veux faire
Ouais, maintenant, tu as eu le temps de t'y faire, de toute façon.
Oui, j'ai eu le temps de m'y faire, et puis, bon, c'est comme ça, quoi. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que j'ai toujours été... sincère, et je n'ai jamais écrit pour pouvoir dire ça sur la scène. Ça a toujours été une circonstance de ma vie qui fait que j'ai écrit certaines choses qu'on m'avait demandé. Puis après, comme je restais avec ces textes, ces choses, je les disais en public pour. J'étais parti un jour au Canada et puis en disant il n'y a plus rien. Puis les amants tristes, en me disant je vais chanter ça, je vais dire ça là-bas. Et j'ai dit si ça marche pas, je viens pas à l'Olympia. J'allais à l'Olympia en novembre 72. Et ça a fait un succès monstre, avec savoir pourquoi, je ne me suis pas rendu compte. Je suis arrivé, c'est comme ça que j'ai fait ces textes avec la musique. Sinon, j'avais fait « Il n'y a plus rien » pour un film que tournait un de mes copains qui, sur le François d'Assise, aujourd'hui. Quoi. Alors il m'avait dit « Tu comprends, tu es là, chez toi, chez tes regards, tes amis, tes parents ». Et puis un copain arrive, parce que tu as compris certaines choses, tu as vu une femme, tu allais tomber amoureux, et tu as vu ses mains. Et ses mains, tu n'avais jamais vu ses mains, quoi. Et des mains bouffies, et tout ça, de travail. Et là, tu as compris beaucoup de choses, et tu as décidé de partir. Alors, tu es donc le François d'aujourd'hui, quoi. Et il y a un copain qui vient te chercher en moto avec un jean. Alors, tu es habillé, toi, comme les princes, ou les ducs, n'est-ce pas, ou les fils de ducs. Et tu te déshabilles et tu mets le jean. Et en faisant ça, tu leur dis ce que tu penses. Et alors, il m'a dit, alors j'ai écrit, la fin, il n'y a plus rien, un moment où il dit, monsieur, madame. Et après, il me dit, quelques temps après, il me dit, ben, on a changé d'avis, c'est fini, il n'y aura pas de texte. Tu diras rien. De toute façon, je n'ai pas fait ce film parce que je lui avais dit, ne dis jamais pour. Il voulait aller à l'avance sur scène. Je lui dis, si tu vas à l'avance sur scène, ne dis pas que je tourne. Que je suis moi, que Léo est là, parce que tu n'auras pas l'avance. Et il a dit, il n'a pas eu d'avance. Hein. Non, il n'a pas fait le film. Et moi, je n'ai pas tourné. J'ai eu ce texte, il m'est resté. Et c'est comme ça que j'ai fait, il n'y a plus rien, quoi. Donc, j'aurais jamais écrit ça.
Le succès a tardé à venir, quand même. Hein. On ne peut pas dire que tu as eu du succès tout jeune.
Non, enfin, les gens intelligents n'ont pas de succès tout jeune. Hein. Un peu quand ils sont vieux, peut-être, quand on les a écoutés, un peu, quoi. Oui, mais je dis, je suis intelligent sans aucune prétention. Enfin, je suis né comme ça, et qu'il y a tellement de cons que je peux être un peu au-dessus des autres, hein, quand même, pas de problème. Hein. Voilà.
Ouais, je veux pas faire un rapprochement, mais quand on t'a vu chez Poivre d'Arvor, il y a eu quand même un moment succulent et exceptionnel. Léo Ferré en face, le fils du comte de Paris, Hein, t'as quand même eu l'air surpris, là.
J'étais surpris, oui.
T'étais un peu gêné au départ, un peu embêté. Bah,
gêné, non, mais j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ça, quoi. Et je ne savais pas que déjà un corps comme ça existait quand on les interviewait à la télévision, quoi.
Ouais. Ça fait un drôle d'effet, quoi.
Ça fait de l'effet, oui.
Ça t'a permis quand même de trouver une grande définition. L'anarchie, c'est la monarchie moins un.
Oui, parce que lui, il avait dit le contraire, quoi.
Ouais. Mais ça te choque toujours, ce genre de situation?
Ça me met sur... Ah, ça, je ne me rends pas compte. Je me demande comment ça peut exister encore. Et la semaine d'après, là, donc quelques jours après, je prends Antenne 2 en Italie, j'ai vu... Comment il s'appelle là,
Julien. Marcel Julien.
Marcel Julien qui a interviewé le comte de Paris, alors le père. Et qui a dit à un moment, moi je n'ai jamais accueilli personne, je suis monarchiste. Ah, ce type il est monarchiste, enfin, vous comprenez. Alors, je sais pas, c'est comme s'il était dinosaure pour moi, quoi. Monsieur Marcel Julien, dinosaure.
Je crois qu'ils ont l'impression de faire acte de romantisme en étant attachés à des choses qui n'ont plus cours.
Oui, mais un romantisme un peu, excuse-moi, hein, quand on voit comment vivaient ces gens-là, hein, et comment certains qui les ont, qui en ont la nostalgie encore vivent encore maintenant, quoi. Habillés comme ci, comme ça. Mais il faut qu'ils ferment leurs portes de chez eux pour être comme tout le monde, quoi. Hein, voilà. Alors, c'est pas possible, ça.
Tu seras révolté jusqu'à la fin des temps.
Mais oui, moi j'étais révolté. Je lui ai dit à ma mère, j'étais révolté dans le ventre de ma mère. Quand je suis sorti, je voulais rentrer. Mais un jour, je connaissais un maître d'hôtel sympa, comme ça, qui avait des mots comme ça de temps en temps. Un jour, il m'a dit, Léo, si jamais je nais une autre fois en sortant du ventre de ma mère, tu sais ce que j'ai dit? Je regarde par terre. S'il n'y a pas de moquette, je rentre.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. De toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détersif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... La solitude. désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais le chiffre. La solitude, la solitude, la solitude. Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Votre fils Mathieu, est-ce qu'il est révolté à peu près des mêmes choses
que Oui, il commence, oui, mais il me ressemble. Puis là, il y a une chose qui m'a surpris, normalement surpris d'ailleurs. L'année dernière, il m'a dit, papa, tu me donnes tous tes disques, toutes tes bandes. Alors il a copié tous mes disques en bandes, il les a écoutés plusieurs fois. Il m'en parle absolument pas. Mais c'est une chose qui s'est passée avec nos amis belges cet été. On était dans un restaurant en Italie, pas loin de chez nous. Et un soir, on buvait un petit peu, quoi. Un petit peu de champagne, un petit peu de vin blanc, quoi. Mais Mathieu avait un peu bu, quoi. Alors il parlait beaucoup. Il m'a dit, c'est un pêcheur, Mathieu. Et comme je dis, un vrai pêcheur, c'est-à-dire un type qui ne prend jamais rien, parce qu'il pêche n'importe où, mais... Le problème pour les pêcheurs, c'est d'attendre, là, comme ça. Et s'ils n'attendent pas, ils ne sont pas pêcheurs. Hein. Sinon, ils vont au marché acheter le poisson. Et alors, il me dit, tu sais, moi, quand je suis là, je suis tranquille, je pêche, et puis je ne m'emmerde pas parce que je parle à la mort, je parle à Baudelaire, je parle à Rimbaud. Voilà, comme ça.
Ah oui, formidable. Cette famille.
Oui.
Ils viennent te rendre visite régulièrement.
Voilà. Hein. Oui, je vais voir, oui. Avec le mini-mortel, comme je dis.
Le mini-mortel.
Oui.
Et il te dicte, quelquefois ?
Oui, il me dit des choses, oui. Je ne veux pas tout dire, parce que ça ferait peur aux gens, quoi.
Oui. Mais tu ne veux pas nous dévoiler même...
C'est pas possible. C'est pas possible, parce que ça me retomberait sur la tronche.
D'accord.
On dit, les poètes libérés.
Après la vie, il y a la vie, alors.
Difficile à exprimer ça. C'est plus la vie, c'est. Et la couleur. Oui. Tu vois, je t'en dis déjà un peu, hein. Arrête-moi parce que sinon c'est tragique.
Vous les avez beaucoup fréquentés. Je suppose que les uns après les autres, aussi bien Rimbaud que Baudelaire ou Apollinaire, ils ont peut-être, vous ont peut-être mieux correspondu à des époques successives. Et maintenant, lequel est-ce qui vous est le plus. Proche du cœur.
Ah ben c'est Rimbaud, parce qu'il peut naître demain matin et écrire ce qu'il a écrit. Ce serait encore plus nouveau qu'au moment où il a écrit. Je dis plus nouveau parce que ces poètes ont eu la malchance d'être uniquement poètes, c'est-à-dire que pas lus, quoi. Hein, c'est rare, quoi. Il n'était pas lu. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut s'exprimer. Hein. C'est pour ça que je dis que ma chance, moi, c'est d'avoir eu de la voix. Et parce que s'il n'y avait pas eu de voix, j'aurais pas écrit, quoi. C'est sûrement. Et d'autre part, un jour, je me suis mis à mettre en musique les poètes. Et j'ai bien fait parce que.
Tu es devenu leur voix.
Oui, et puis c'est le véhicule. Ah oui, c'est ça, la musique. C'est une époque monstrueuse que nous vivons, mais en même temps, fantastique, quoi. Fantastique. Je lisais une chose hier sur une revue. Les trucs électroniques, bits, le bits, il y a 60 bits, de 90 bits, 98 bits. Ah, je ne comprenais pas très bien. Et alors, ça m'intéressait, je dis que ça veut dire bits, comme ça, BITS, des bits. Et alors, j'ai vu qu'il y avait on pouvait faire 8 millions d'opérations en une seconde, quoi. Vous savez ça? C'est abominable, quoi. C'est le dinosaure qui pense, quoi.